Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue sur le site des pays carcassonnés, le bar des sciences. L'avenir du Big Bang, c'est un débat qui a eu lieu le jeudi 12 mars 2009. Le débat s'est ouvert avec trois chercheurs, David Polarski, qui est professeur de l'université de Montpellier, Alain Blanchard, qui est professeur de l'université Paul Sabatier à Toulouse, et Alain Falvard, qui est co-organisateur de cette soirée, mais aussi directeur de recherche du CNRS de Montpellier. L'avenir du Big Bang, qu'est-ce que c'est? Voilà la question que nous avons posée.
Le premier, c'est de parler du Big Bang, qui est plutôt ce qui s'est passé, et ensuite d'évoquer l'avenir de l'univers. Mais aussi, on peut le voir comme l'avenir d'une théorie, c'est-à-dire le devenir d'un modèle, d'une représentation du monde, qui est le modèle du Big Bang. Donc je vais donner un petit peu ces deux sens, enfin je l'ai compris dans ces deux sens-là.
Le Big Bang, l'avenir du Big Bang, pour vous, ça veut dire quoi?
Pareil. L'avenir du modèle.
Oui.
Parce que finalement,
Parlez bien près du micro.
oui, on a un modèle donc qu'on appelle Big Bang, qui est assez. Bon, dont l'origine est un peu énigmatique, mais il marche très bien. Et donc moi je vois ça comme ça, l'avenir du Big Bang. Est-ce que ce modèle arrivera à passer toutes les observations qu'on va faire, qu'on sera amené à faire dans les années à venir? Et c'est pas évident, enfin c'est pas gagné. Mais moi j'y crois, mais a priori c'est pas gagné.
Alors, est-ce qu'on sait tout sur le Big Bang où il y a vraiment un trou noir?
Non, c'est-à-dire que non, ce que je pense, c'est que on croit pouvoir extrapoler les lois de la physique jusqu'aux origines, c'est-à-dire jusqu'à il y a 13,7 milliards d'années, mais on ne peut pas dire qu'on sait tout. L'origine est mystérieuse. Voilà, l'origine, normalement, à l'origine, on a des énergies tellement élevées que là, on n'a pas vraiment une théorie pour décrire les premiers instants, aussi curieux que ça puisse apparaître.
Mesdames, Messieurs, bien sûr, j'ai un micro, je vais venir vous voir si vous souhaitez poser déjà les premières questions. Peut-être avoir un complément sur l'idée de d'avoir fait ce débat autour de l'avenir du Big Bang, Alain.
Oui, non, mais je crois que
Micro.
je crois que Alain et David ont tout dit, hein. C'est-à-dire que on est dans un univers, dans une phase d'évolution d'univers. On sait depuis quelque temps que notre univers est en évolution, que ce n'est pas un univers statique, tout ça bouge autour de nous sans qu'on s'en aperçoive d'ailleurs, hein. C'est un des paradoxes, mais ce sont les observations physiques qui ont montré ça. Les gens qui observent l'univers ont montré que ce truc qui est en train de grandir. Donc, il y a un avenir à ça. Est-ce que cet univers va continuer éternellement à grandir, ou est-ce qu'à un certain moment, eh bien, on va aller vers ce qu'on appelle parfois le Big Crunch, c'est-à-dire un retour en arrière? Est-ce que cet univers a explosé, si on veut? C'est une image évidemment un peu naïve. On a une espèce d'explosion initiale il y a 13,7 milliards d'années. Cette explosion entraîne l'univers dans une expansion. Mais est-ce que cette expansion va se ralentir à un certain moment, hein, comme quand on lance une fusée, eh ben, si on ne la lance pas assez fort, elle retombe. Donc, tant qu'elle monte, on a l'impression qu'elle s'éloigne, mais à un certain moment, on ne l'a pas lancée assez fort, elle va retomber. Donc, est-ce que cet univers, l'explosion initiale va faire qu'il va réussir à continuer à se développer éternellement, ou est-ce qu'à un certain moment, l'explosion initiale n'aura pas été assez forte et qu'il va retomber sur lui-même et revenir en sens inverse dans un mid-crunch qui nous ramènera dans une explosion en sens inverse. Il y a cet aspect-là aussi, c'est l'évolution elle-même de l'univers. Je ne pensais pas à ce que vous avez dit sur l'évolution de la théorie elle-même, l'avenir de la théorie du Big Bang, puisque ça ne reste qu'un modèle, ça ne reste qu'une théorie, comme toute les créations humaines. C'est presque, si on peut dire création humaine, le mot de création est plutôt attribué à Dieu qu'à l'homme, sauf pour les artistes. Mais voilà, c'était ça que je mettais autour, hein. Il y a du passé, il y a de l'avenir. La connaissance humaine est en mouvement. C'est ce que ça signifie, quoi, pour moi.
Alors, on parle de trois tests du Big Bang. Peut-être, Alain, vous allez pouvoir peut-être m'expliquer ce qu'est les trois tests du Big Bang. Que sont les trois tests du Big Bang?
Effectivement, il y a historiquement, disons, il y a eu ce modèle du Big Bang est apparu dans les années 30. Avant, les astronomes auraient représenté le monde comme un nuage d'étoiles, des étoiles immobiles les unes par rapport aux autres. Et d'ailleurs, les données astronomiques indiquaient que ce nuage d'étoiles avait une extension finie. Si vous regardez le ciel, en fait, vous, à l'œil nu, vous pourriez distinguer à peu près 6000 étoiles. Au XIXe siècle, les astronomes se sont rendus compte que ces 6000 étoiles, c'était un tout petit ensemble, une toute petite partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Et effectivement, aujourd'hui, on estime que le nuage d'étoiles auquel on appartient, ça représente à peu près 10 milliards d'étoiles. 10 milliards d'objets comme le Soleil, des fois plus gros, des fois plus grands. Il existe une myriade d'autres objets similaires à ce nuage d'étoiles. Donc ça s'appelle une galaxie et il existe des centaines, des milliers et des milliards d'autres galaxies. Ce qu'on a découvert au début du siècle, c'est que ces galaxies semblent, quand on les regarde, s'éloigner de nous. Ce qui peut paraître extrêmement curieux, ça donne l'impression que nous sommes immobiles et que tout le monde s'éloigne de nous en nous prenant pour le centre de l'univers. Alors si on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'en fait que toute personne qui habite aussi sur une de ces galaxies distantes, quand elle regarde les autres galaxies, va avoir l'impression d'être immobile et que ce sont les autres qui s'éloignent. Situation que vous connaissez quand vous êtes dans un train et que le train d'à côté commence à bouger, on ne sait plus si c'est vous, si c'est soi-même qui bougeons ou si c'est le train d'à côté qui bouge. Et en fait, on a un repère, c'est la Terre. Mais dans l'espace, il n'y a pas de repère. Donc chacun se considère comme immobile et les autres se déplacent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Donc si les équations qui régissent cette expansion ont été découvertes par Einstein dans les années à peu près de 1920 à 1930, donc dans la même période où ces observations sont arrivées. Et on a compris que ce mouvement des galaxies s'explique parfaitement, se comprend tout à fait dans la théorie de la relativité générale. Et on s'imagine tout de suite, quand on parle de la relativité générale, que c'est quelque chose de très compliqué auquel personne ne comprend rien. En fait, non, c'est pas du tout compliqué, c'est ce que Alain a expliqué tout à l'heure. Ce qui gouverne les lois de l'évolution de l'univers, c'est les lois de la gravité. Ce sont les mêmes lois que quand j'envoie ce petit bouchon en plastique. Ça se passe mal. Donc ce bouchon en plastique, il est soumis à la force de l'attraction de la Terre. Donc il est envoyé avec une vitesse initiale et puis il a tendance à aller de moins en moins vite parce que la force gravitationnelle le ralentit. Si effectivement il n'y avait pas l'atmosphère terrestre, si j'étais suffisamment fort, je pourrais envoyer ce bouchon suffisamment vite pour qu'il s'éloigne jusqu'à l'infini, ce qu'on fait avec une fusée. L'expansion de l'univers, il va se passer exactement la même chose. Et c'est à ce point la même chose que quand j'enseigne à Montpellier ou à Toulouse les équations du Big Bang, on retrouve exactement la même équation que celle de ce bouchon quand on l'envoie vers le lointain. Il s'éloigne, donc l'expansion, c'est un mouvement d'éloignement. Si la force gravitationnelle est suffisamment intense, eh bien ce mouvement d'expansion va s'arrêter et on va repartir en arrière. Si la force gravitationnelle est insuffisamment forte, eh bien le mouvement d'expansion va durer éternellement. Alors sur Terre, ce qui contrôle le problème, c'est la vitesse. Si vous l'envoyez doucement, le bouchon retombe. Si vous l'envoyez suffisamment vite, il s'en va jusqu'à l'infini. Dans l'observation des galaxies, on sait la vitesse à laquelle elles s'éloignent. Donc ce qu'on ne connaît pas, c'est l'intensité de la force qui essaye de les ramener. Si cette force est trop faible, eh bien les bouchons, ma galaxie plutôt, va pouvoir aller jusqu'à l'infini. Et c'est donc l'intensité de la force gravitationnelle. Cette intensité de la force gravitationnelle, elle est produite par les masses qui se situent dans l'univers. Et donc c'est la densité de l'univers qui va contrôler si ce mouvement d'expansion s'éloigne indéfiniment ou non. Et ces observations de 1930 ont été complètement en accord avec ce que les modèles d'univers en expansion prévoyaient. Donc on a été convaincu à ce moment-là qu'effectivement on avait la bonne théorie, la relativité générale, et des observations qui étaient en accord. Quelques années après, les années 40, les physiciens s'intéressent beaucoup à la physique nucléaire et ils appliquent la physique nucléaire à autre chose que de fabriquer des armes, ils appliquent la physique nucléaire à comprendre la composition chimique de l'univers dans son ensemble. Dans cette composition chimique, c'est pour l'essentiel 75% d'hydrogène, 25% d'hélium. On sait que dans les réactions nucléaires qui se produisent au cœur des étoiles, on transforme l'hydrogène en hélium. Donc on s'est dit, l'explication de la composition chimique de l'univers, ça doit être des réactions nucléaires. Mais dans les étoiles, quand vous produisez ces réactions nucléaires, ils s'en produisent d'autres derrière en cascade qui vont vous fabriquer d'autres éléments que l'hélium, comme le carbone, l'oxygène, etc. C'est choses qui n'existent qu'à l'état de trace dans l'univers. Si l'hélium était fabriqué par des étoiles, eh bien, on devrait trouver une très grande quantité de ces éléments qu'on ne trouve qu'à l'état de trace. Donc on s'est dit, ce ne sont pas les étoiles qui fabriquent l'hélium qu'on voit dans le ciel. C'est une autre réaction nucléaire, un autre lieu. Mais des réactions nucléaires, ça demande des densités élevées et des températures très élevées. On en trouve dans la nature, au cœur des étoiles, et on n'a pas tellement d'autres endroits où on en trouve. Quelqu'un a eu l'idée que, puisque le Big Bang, c'est un mouvement d'expansion, quand on remonte le film à l'envers, c'est donc une contraction, et donc il y a eu un état dans le passé très dense, qui dit dense en général, dit chaud, et donc très dense, très chaud, des réactions nucléaires peuvent s'y produire. Si on essaye de calculer ce qui se passe dans ces réactions nucléaires, eh bien, on trouve à peu près les 25% d'hélium, et on trouve aussi une abondance de petits éléments périphériques, de ce qu'on appelle des isotopes, des éléments rares, qui sont justement avec l'abondance prévue par cette théorie de la nucléosynthèse primordiale. Donc on a confiance dans cette théorie de la nucléosynthèse primordiale. Et dernier élément, je vous ai dit, s'il y a cette nucléosynthèse, il doit y avoir une température. Et quand il y a une température en physique, quand un milieu a une température, il y met du rayonnement. Ce n'est pas une surprise pour vous. Vous avez des filaments d'ampoule actuellement. Et ces filaments, ce sont un petit fil de métal et il émet de la lumière du fait qu'il est chaud. On fait passer un courant, le courant chauffe le fil et le rayonnement qui est émis, c'est juste le fait qu'on a une certaine température. On remplace le filament de tungstène par un filament de carbone, vous aurez la même température, le même type de rayonnement caractéristique, non pas du matériau, mais de la température. Donc température, ça implique rayonnement avec une loi spécifique qu'on appelle loi de Cornouaille. Donc les physiciens se sont dit, mais s'il y a eu des réactions nucléaires, on a besoin d'une température, donc il doit exister un rayonnement. Et ce rayonnement doit avoir une caractéristique, ce qu'on appelle un spectre de Cornouaille. Ce rayonnement est découvert en 1964, absolument par hasard, sans qu'on le cherche. On a voulu mesurer son spectre. On l'a découvert en 1964. La découverte a valu le prix Nobel à Penzias et Wilson en 1978. On a pu mesurer le spectre en satellite en 1991. Et ça a valu le prix Nobel à deux auteurs qui étaient sur ce satellite en 2006. Voilà les raisons qui nous conduisent à croire en ce modèle, c'est-à-dire finalement on applique les lois de la physique élémentaire, celles qu'on enseigne à l'université jusqu'en maîtrise, à un objet, l'univers, on applique ces lois, il y a des conséquences, ces conséquences sont vérifiées. C'est pour ça qu'on y croit en tous les cas. Je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot de croire, mais disons la physique fonctionne comme ça. On construit des modèles. Tant que ces modèles nous amènent des prédictions et que ces prédictions sont en accord avec les observations, bien on y croit. Le jour où il y a un défaut, on essaye de gratter, voir si on n'a pas oublié quelque chose. Et si vraiment on est convaincu, et bien il faut essayer de trouver autre chose.
Est-ce qu'Alain Blanchard, tout ce qu'il vous a dit vous inspire, vous donne envie de poser des questions? Je vais essayer de faire un petit passage avec toutes les chaises vides, voilà. Merci.
Eh bien, dans ce que je viens d'entendre, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que l'expansion de l'univers est régie, ou est à peu près bien comprise, à partir des lois de la relativité généralisée. Or, ces lois de la relativité ont été écrites entre 1915 et 1920 par Einstein qui, lui, envisageait l'univers comme étant quelque chose de statique. Il a fallu attendre la découverte de l'expansion de l'univers par Hubble et à ce moment-là, tous les scientifiques ont admis l'expansion de l'univers. Alors, comment expliquer que cette expansion puisse être comprise à partir de lois écrites par quelqu'un qui voyait un univers statique?
Merci de votre question. Comment? S'il y a quelque chose à répondre, je ne sais pas. En tout cas, c'est hein, si vous voulez.
Alors bon, je crois qu'il faut répondre assez vite parce que sinon après on va perdre un peu le fil du débat. En fait, il faut comprendre que d'abord, les équations de la relativité générale ont été écrites en 1915. La théorie est devenue hyper célèbre, c'est-à-dire qu'Einstein est devenu une personnalité scientifique mondiale en 1919. Et ce n'est pas lié à l'expansion de l'univers. C'est l'expédition d'Eddington qui a montré que les rayons lumineux sont courbés au passage du Soleil. Et ça, ça a été l'énorme succès de la relativité générale. Et c'est en 1919 qu'Einstein est devenu une grande célébrité. Les premières applications à l'univers datent du début des années 20. C'est Friedman, d'ailleurs, on les appelle l'équation de Friedman. Elles ont été écrites en 1922. Et vous avez tout à fait raison que Einstein n'aimait pas l'évolution de l'univers. Et ça tient tout simplement au fait que quand on écrit les équations de Friedman, on peut s'arranger pour mettre des termes dedans, et il a mis dedans un terme qui s'appelle la constante cosmologique, qui a d'ailleurs retrouvé une seconde jeunesse maintenant, peut-être qu'on pourra en reparler plus tard, mais lui, il l'a mise dans un univers fermé, et le but était que l'univers soit statique. Mais Friedman, justement, a découvert qu'on n'est pas obligé d'avoir un univers statique. On peut très bien avoir, et le cas générique, c'est un univers qui n'est pas statique. Autrement dit, ce que j'essaye de dire, c'est qu'à partir des équations de la relativité générale, un cas très particulier, c'est l'univers d'Einstein. Et les cas non particuliers sont les cas d'univers en expansion. Donc il n'y a pas de contradiction. C'est simplement ce que je mets dans le contenu de l'univers. Et lui, il a mis quelque chose qui s'appelle une constante cosmologique, qu'il a d'ailleurs abandonné après. La légende veut, je ne sais pas si c'est vrai, mais la légende veut qu'il ait dit que c'est la plus grande gaffe de sa vie. En fait,
on aimerait tous en faire une comme ça. Hein.
Et voilà, on aimerait tous en faire même un dixième d'erreur comme ça, on serait très content. Donc il n'y a pas de vraie contradiction.
Oui, alors j'irai même un petit peu plus loin. Je suis passionné par cette question, donc j'ai regardé un peu les papiers historiques. Ce qui se passe dans la relativité que publie Einstein en 1915. C'est très intéressant que la première question qu'il aborde, c'est dans le papier suivant, c'est la question de la cosmologie. Et il commence par dire « Je vais devoir changer mes équations et je vais vous expliquer pourquoi. » Et il est confronté au problème qu'il essaye de décrire l'univers et il ne trouve pas de solution. Comme il ne trouve pas de solution, il introduit une constante supplémentaire qui lui permette de trouver une solution. Et il ne trouve pas de solution parce qu'il est parti d'un a priori, qui était l'a priori de tout le monde à cette époque, d'un univers statique et immobile. Et en effet, dans la première version de la relativité générale, il n'y a pas de possibilité de trouver un univers statique. Et comme il cherchait uniquement ce type de solution, il a été amené à modifier ses équations. Et c'est pour ça qu'effectivement, ultérieurement, quand on découvre l'expansion, il abandonne tout de suite sa constante cosmologique en disant « je me suis trompé ». Donc il a suivi en fait, en science, c'est presque une erreur. Il a raté son coup. S'il avait cru et suffisamment anticipé la possibilité d'avoir un univers en expansion, il aurait pu le prévoir. Mais ça demandait une conception complètement nouvelle.
Oui, mais je crois qu'il faut rendre justice à Friedman quand même. C'est lui qui a vu l'erreur.
Friedman a absolument identifié l'erreur. C'est même encore plus amusant que ça. C'est que quand l'article de Friedman est publié, Einstein écrit une note de 5 lignes. Il faut savoir que Friedman est un jeune physicien totalement inconnu. Et Einstein dit « Je crois que M. Friedman s'est trompé dans ses calculs. » Et puis, il y a un mathématicien qui explique à Einstein « Non, pas du tout. Finalement, les calculs de Friedman sont justes. » Einstein réécrit une deuxième petite note en disant « Finalement, je crois que les calculs de M. Friedman sont corrects. » Et malgré ça, ces solutions restent inconnues. Friedman n'a pas travaillé, disons, ça n'intéresse personne. Et Friedman meurt jeune, donc son travail est un petit peu oublié. Et il y a un deuxième volet à ça, qui est un volet observationnel. En fait, depuis 1910, on a observé les nébuleuses spirales. On s'est rendu compte que ces nébuleuses spirales sont des objets qui s'éloignent. Mais on ne sait pas encore que ce sont des nuages d'étoiles comme la nôtre. Donc on ne sait pas encore que ce sont des galaxies. Cette observation qui va être clé, qui va identifier les nébuleuses comme des objets galactiques identiques à notre nuage d'étoiles, elle est faite par Hubble dans les années 20. Donc d'un seul coup, notre conception du monde change. C'est-à-dire qu'on est passé d'un univers qui était constitué d'un seul nuage d'étoiles, unique, gros, et puis on est au centre, ou quasiment, à une myriade de nuages identiques, et on est un de ces nuages, parmi tant d'autres. Et on sait depuis 1910 que ces objets s'éloignent avec des vitesses importantes. Et donc, dès 1920, il y a Eddington, l'astronome qui dirige Cambridge, qui note que dans les modèles relativistes, il y a des solutions qui produisent un décalage des fréquences et qui pourraient expliquer les observations. On ne parle pas encore d'expansion, on voit des décalages de fréquences. Et donc, c'est noté, en fait, dès 1917, dans le travail de De Sitter, c'est un premier modèle cosmologique dans lequel on voit des décalages de fréquences qui permettent d'interpréter les observations sur les galaxies. Mais c'est toujours conçu comme un univers statique. Parce qu'on n'a pas encore bien compris les transformations de coordonnées dans les géométries tordues, ce qui ne déshonore personne. Et donc on est encore en train de ne pas bien comprendre ce que c'est qu'un univers en expansion dans la relativité générale. Et ça se clarifie dans les années 20. Et en 1927, papier historiquement très important parce que c'est un francophone, l'abbé Lemaître, qui est un prêtre qui a décidé de faire une thèse à Cambridge et un post-doc aux États-Unis, donc qui suit à peu près la trajectoire normale d'un étudiant aujourd'hui, il étudie la relativité générale et il se rend compte qu'il y a des solutions en expansion. Il redécouvre les équations de Friedman, sans savoir que Friedman les a établies, et il fait la connexion avec les observations de vitesse de fuite des galaxies.
C'est ce qu'on appelle le modèle cosmologique standard.
Tout à fait, oui, à cette époque-là. Maintenant, le mot standard prend un sens peut-être plus complexe, mais on est dans le modèle standard.
Des questions, mesdames, messieurs, peut-être, oui.
Est-ce qu'on a une idée plus ou moins précise de la vitesse d'éloignement de galaxies par rapport à la nôtre? Et est-ce que la variation de vitesse suivant les galaxies peut-elle nous faire comprendre le positionnement des galaxies par rapport au point supposé, enfin, si on peut dire, même si c'est naïf de le dire comme ça, du départ, puisque les galaxies les plus rapides par rapport à nous seraient celles qui seraient opposées à notre trajectoire?
Oui, on a une idée précise de enfin, on pourrait même donner le nombre. On croit aujourd'hui que le nombre est de 72 km par seconde par mégaparsec. Alors c'est très amusant. Déjà le nombre est amusant parce que 72 km par seconde, c'est gigantesque. On se dit, mais pourquoi on ne le voit pas? Mais justement, pour avoir deux objets qui s'éloignent de 72 km par seconde, il faut un éloignement, une distance entre les deux d'un mégaparsec. Et un mégaparsec, ça veut dire un million de parsecs, et un parsec, c'est de nombreuses années-lumière, on va le dire comme ça. Allez, 3. On va arrondir à 3. Je crois que c'est 3,22. Voilà, 3,22. Mais le 22, on va le laisser tomber. Donc, c'est 3 années-lumière. Donc alors, maintenant, on va réfléchir un peu. C'est-à-dire qu'on prend la distance que parcourt la lumière à 300 000 km par seconde pendant 3,22 années, et ça, on le multiplie par un million. C'est totalement... ce sont des distances colossales. Et ça, c'est la distance qu'il faut pour que les deux objets s'éloignent de 72 km par seconde. Donc, on a une idée de ça. Alors, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on fait? On fait, parce que finalement, quand on a le modèle et qu'on écrit nos équations, ce paramètre d'éloignement joue un rôle clé. Hein, on le voit dans le décalage de la lumière émise par les objets qu'on regarde. Donc on a une idée précise. Et c'est ça qui est curieux, c'est que... D'ailleurs, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Alain, que moi je trouve personnellement fascinant dans toute l'affaire, c'est que celui qui est le premier à réaliser que quand on va en arrière, on arrive à une singularité, est un abbé. Moi je trouve ça assez... Non, je trouve ça vraiment remarquable parce que souvent les questions qui sont posées, c'est en fin de compte, on dit oui, mais alors quelle est l'origine de l'univers? Est-ce que vous croyez en Dieu? Et des questions comme ça. Et je trouve quand même assez remarquable que lui ne s'est pas posé. C'est-à-dire que ça n'a pas été une barrière pour qu'il aille scruter ce qui se passe dans les premiers instants de l'univers. Parce qu'on aurait pu imaginer. Je crois que la structure psychologique de la majorité des gens aurait été un blocage. Et lui n'a pas eu ce blocage. Il a dit, et pourtant il était croyant. Et alors c'est très amusant parce que l'Église qui n'a pas toujours accueilli favorablement les nouvelles théories en cosmologie, ça s'appelait pas que la cosmologie, mais l'idée copernicienne par exemple. Bon, l'Église n'était pas très favorable. Curieusement, pour ce qui est du Big Bang, l'Église n'a jamais eu elle n'a jamais eu ce problème. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un en son sein qui a été l'avocat de cette théorie. Alors je ne sais pas si ça répond un peu à vos...
Oui, je voulais aussi savoir si justement il y avait des différences entre les vitesses d'éloignement des galaxies par rapport à nous. Donc c'est plus elles sont loin et plus elles s'éloignent de nous, c'est ça?
Plus vite elles s'éloignent de nous.
Elles ont fait plus de chemin, donc ça veut dire qu'elles...
Il y a une image qui est très simple, qui est vraiment très simple, que j'emploie toujours même avec les étudiants, qui est celle d'un ballon qu'on gonfle. Alors, vous gonflez un ballon, et imaginons que vous mettez deux petites croix sur le ballon. Eh bien, pendant que le ballon gonfle, les petites croix vont s'éloigner l'une de l'autre. Si on a compris comment s'éloigne le ballon, on a compris comment s'éloignent les deux croix. Eh bien, comment gonfle le ballon? C'est la relativité générale. Maintenant, le seul élément qu'il faut ajouter, c'est que quand on va en arrière dans le temps, le ballon est de moins en moins gros, forcément, puisqu'il gonfle. Ce qu'il faut ajouter, c'est que le ballon devient de plus en plus chaud. Et ça, c'est ce qu'a dit Alain. Ça, c'est ce qu'on peut montrer, c'est que quand le ballon est de plus en plus petit, il est de plus en plus chaud. D'où le fait que quand le ballon a presque un rayon zéro, on a l'impression qu'il est très chaud et qu'il explose. Et ça, c'est le bang. Bang, c'est vraiment explosion. Et la vérité, c'est que quand le ballon a un rayon quasiment zéro, on n'a pas de théorie. On ne sait pas le décrire. On sait ça, et c'est pour ça que l'avenir du Big Bang, c'est comme ça que je le comprenais. Pour le moment, c'est quelque chose de mystérieux, mais qui est remarquablement robuste, parce qu'Alain a parlé de la nucléosynthèse primordiale. Ce n'est pas trivial d'avoir une théorie qui marche et qui donne la bonne abondance. Même s'il faut tripoter les paramètres, ce n'est pas trivial. Ce n'est pas trivial du tout. Il y a le fond diffus, dont je crois que tu l'avais mentionné, c'est pas trivial non plus. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un rayonnement qui est extraordinairement homogène? Il y a de petites irrégularités, mais c'est 1 sur 100 000. C'est incroyablement petit. Donc, voilà. Alors, pour toutes ces raisons, quand il y a un problème avec le Big Bang, on préfère dire il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, plutôt que de dire on jette tout. Et c'est un peu là où on en est.
Vous voulez prendre la parole, peut-être ajouter, ou oui?
Je désirerais poser une question. Si malheureusement, vous savez, on a copié sur Jules Verne de la Terre à la Lune et de la Lune à la Terre, vice-versa. Donc, vous rappelez que Jules Verne avait écrit sur la planète et l'autre planète. Donc, ce qui m'impose à moi, c'est la question. Quel rapport aurait pu avoir comme puissance ces gens?
Alors, il y a un truc très intéressant dans votre question, c'est que la Lune, c'est un peu, par rapport à la cosmologie, c'est un peu comme si vous vouliez décrire la carte de la France en restant dans votre cuisine. Je veux dire, c'est pas possible. C'est beaucoup trop près. Donc, c'est pas du tout les mêmes échelles. Alors, il y a en effet des modifications qui peuvent être amenées. Comme les GPS, par exemple. Les satellites. Les GPS, ce sont des satellites qui sont en orbite. Et il faut faire des corrections relativistes. Donc, si on ne fait pas des calculs qui viennent de la relativité générale pour calculer les orbites, eh bien, un GPS, après un certain nombre d'années, va pas vous amener là où vous voulez, parce qu'il fera des erreurs de quelques kilomètres. Mais ces erreurs sont infimes. D'accord ? Donc là, on est vraiment en train de parler de distances beaucoup plus grandes. Donc ce n'est pas les mêmes échelles, c'est ça ce que j'essaye de dire. La Lune, c'est tout tout près.
Être proche, elle semble être proche de nous, oui. Proche de l'univers.
Voilà, mais là, on dira plutôt qu'elle est proche de nous. Donc là, quand on parle d'éloignement, c'est vraiment, c'est beaucoup plus loin, quoi. C'est plus les mêmes lois.
D'autres questions, peut-être. Il faudra parler plus près du micro, de façon à ce qu'on puisse bien vous entendre. Oui.
Les philosophes là, se posent la question, pourquoi y a-t-il quelque chose dans l'univers plutôt que rien? Est-ce que vous vous la posez aussi, vous les scientifiques hein?
Alors, c'est vrai que la cosmologie est souvent interfacée avec des questions plus fondamentales, religieuses ou philosophiques. Toutes les interrogations sont légitimes, mais pour nous, la question est de savoir quelles sont les interrogations sur lesquelles la démarche scientifique permet d'accroître la connaissance. Et sur une question, pourquoi est-ce qu'il y a plutôt quelque chose que rien, il y a des gens qui ne resteraient pas de mon avis, mais enfin, pour l'instant, je ne suis pas sûr que la démarche scientifique améliore l'état de la connaissance. Mais il y a des gens qui développent des théories pour expliquer pourquoi il y a un univers plutôt qu'il n'y en ait pas.
Oui, pardon. Est-ce que dans votre hypothèse d'expansion inversée de l'univers, vous pouvez envisager revenir donc à l'état de 13 milliards 700 millions d'années en arrière et même avant le Big Bang?
Vaste question. Hein.
Oui, le problème c'est que je ne comprends pas la question.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu avant le Big Bang, c'est ça? Attendez.
Vous avez parlé, Monsieur Blanchard, d'une expansion qui pouvait s'arrêter. On pouvait avoir le chemin inverse, donc on revient en arrière. Et est-ce que vous avez imaginé qu'on pouvait revenir avant le Big Bang?
Alors, je crois que j'ai quelque chose qui se rapproche de ce à quoi vous faites allusion. Ça tombe bien, c'est déjà présent chez mon fan. C'est la personne dont je suis fan, c'est l'abbé Lemaître. Il avait imaginé qu'effectivement, puisqu'on avait un univers qui démarre d'un point et qui retourne à un point, ben qu'on pouvait continuer à droite et à gauche et repartir dans un mouvement cyclique, d'univers cyclique. C'est une possibilité. Simplement, à nouveau, au moment où il y a ce fameux point, cette fameuse singularité, la physique nous échappe complètement. Donc on n'a, pour l'instant, aucun moyen de vous dire ce qu'il y a pu avoir avant, ni s'il y a un futur comme ça qui va ressembler à ce qu'il y avait à cet instant de départ. Donc on est sur des questions qui nécessitent une physique qu'on n'est pas encore à maîtriser. Et c'est ça la deuxième grande étape dans la démarche qu'il y a eu en cosmologie. Le modèle standard, c'est quelque chose qui s'est établi, ce dont on a parlé, pratiquement il s'est, je dirais, cristallisé avec la découverte du fond cosmologique en 1964. Mais à partir de 1964, on va se poser d'autres questions. Et donc, depuis le moment où on a commencé à travailler vraiment en cosmologie, on a fait autre chose que ce modèle standard. On essaye d'aller au-delà, de faire poser plus de questions. Et une des questions que vous avez tous en tête, c'est qu'est-ce qu'il y a avant? Et le qu'est-ce qu'il y a avant, pour y répondre, il faut qu'on décrive non seulement l'univers, mais qu'on décrive la physique qui va s'y appliquer. Et cette physique-là, on n'y a pas accès en laboratoire. Donc il faut des esprits savants qui inventent la physique pour deviner ce qui a pu se passer. Et là, évidemment, les progrès sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus lents.
Oui, et quand je répondais de manière un peu provocatrice que je ne comprends pas la question, bien évidemment que j'avais comprise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on revient dans un état similaire à l'origine, mais c'est dans le futur. On est bien d'accord.
Ça se complique. Hein.
Bonjour.
Concernant le rayonnement fossile, je crois que vous avez fait, vous en avez parlé. Est-ce que vous pourriez préciser ce qu'on entend vraiment? Est-ce que c'est un rayonnement qui est émis? Quel est son point d'origine et son âge, si j'ose dire? À savoir, est-ce que c'est le rayonnement initial? Mais de quelle manière pourrait-on le recevoir, puisqu'il devrait être derrière nous? Ou alors, est-ce qu'il est réémis de manière similaire actuelle, enfin actuellement, ou du moins d'une manière plus récente? Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis.
Non, mais nous pouvons très bien recevoir aujourd'hui des photons qui ont voyagé quasiment aussi longtemps que l'âge de l'univers.
Mais comment est-ce possible, puisqu'il voyage à la vitesse de la lumière et que nous allons moins vite, donc il devrait passer derrière nous?
Attendez, il y a juste un point, c'est précisément, justement, il n'y a pas de point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se représenter le Big Bang comme quelque chose qui se passe à un endroit précis et qui se propage partout. Non, c'est partout en même temps. Donc la lumière, elle est émise partout en même temps. Donc si moi je suis là, la lumière qui a démarré d'ici, elle est partie. Mais inversement, là-bas, il y avait un point qui m'a envoyé de la lumière que je reçois moi. Tout le monde a le même rôle. Tout le monde revoit la même chose, partout. Donc il n'y a pas de point privilégié.
Il n'y a pas de point, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace.
Si, il n'y a pas de point privilégié. C'est-à-dire l'espace est le même partout. Vous n'occupez pas une place particulière. Tout le monde...
Même si ce n'est pas rigoureux, il y a une surface. En fait, c'est une hypersurface, il y a une surface. Et ce qui veut dire, c'est que la lumière est envoyée de tous les points de la surface. Et il y en aura qui, effectivement, qu'on ne verra jamais, mais il y en aura qu'on va encore voir demain. Et après-demain, et après-après-demain. Ça dépend d'où ils nous ont été envoyés. Vous avez raison.
Oui, je partais sur l'hypothèse qu'il y avait un point de départ.
Ah non, c'est une surface de départ.
Non, mais c'est partout. C'est partout. Imaginez que tout le monde se mette à crier en même temps. Et on est... Donc la vitesse du son, c'est 360 mètres par seconde. Donc s'il y a quelqu'un à 1 km, ben vous entendez sa voix dans 3 secondes. Puis celui qui a 10 km dans 30 secondes, puis, etc. Donc vous recevez toujours le son de quelqu'un. Enfin, alors, sauf que ça décroît en intensité. De la même façon que le fond cosmologique a une température qui descend au cours du temps.
On peut peut-être donner quelques nombres, parce que vous avez mentionné l'âge. Alors, de quand a été formé ce fond diffus? Quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Mais l'âge de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années. Donc, c'est quasiment à la naissance.
Et comment on est arrivé à obtenir ce chiffre?
C'est les modèles qui nous le disent. C'est vrai, les photons ne nous disent pas quel âge ils ont. Mais c'est les modèles.
Mais on a un ordre de grandeur quand même. On voit des galaxies qui sont à une certaine distance... et qui s'éloigne à une certaine vitesse. Donc si vous avez une voiture qui est à 1 km de vous et qui roule à 10 km/h, vous pouvez vous dire, bon, elle était ici il y a, je ne sais pas combien, 6 minutes. C'est ça. Hein, alors c'est peut-être 4 ou c'est peut-être 10 selon qu'il a accéléré ou ralenti. Mais c'est à peu près le bon ordre de grandeur.
Comment on évalue la distance?
Ça, c'est affreusement compliqué. On sait très très mal évaluer les distances. C'est des programmes d'astronomie qui durent des années et des dizaines d'années. Et on mesure extrêmement peu de distance de façon directe. La seule méthode directe en astronomie, c'est ce qu'on appelle la méthode de parallaxe. Alors, le principe, c'est que si vous déplacez légèrement, là je suis en train de me bouger ma tête, la bouteille semble se déplacer légèrement par rapport au fond de la salle. Ce qu'on appelle un effet de parallaxe, c'est-à-dire je vois la bouteille dans la direction de madame, là, et puis là je la vois dans votre direction. Donc en notant ça, je peux calculer la distance qu'il y a entre moi et cette bouteille, sachant de combien je me suis déplacé à droite et combien je me suis déplacé à gauche. Donc on fait ça sur les étoiles. La Terre bouge autour du Soleil. Donc les étoiles les plus proches, elles ont l'impression de se dandiner un peu sur leur position sur le ciel au cours du temps. Ça nous permet de calculer leur distance. Mais ça, on fait ça pour des étoiles qui sont vraiment dans notre voisinage.
Le temps est aussi valable à des distances très près.
Le principe, oui, mais on ne peut plus l'appliquer. C'est-à-dire que si je bouge comme ça et que je suis en train de regarder le clocher d'une église à 3 km par rapport au paysage qui est derrière, je ne le vois pas bouger. Donc ça ne marche pas dès qu'on va à plus qu'une certaine distance. Donc on est ensuite obligé d'identifier des étoiles particulières dont elles ont des propriétés qui sont corrélées à leur luminosité. Le grand objet sont ce qu'on appelle les étoiles de Céphéide, qui varient d'une façon très régulière au cours du temps. Et selon la période, on s'est rendu compte que les plus lumineuses sont celles qui varient avec une période la plus grande. Donc il y en a qui varient en 10 jours, d'autres en 20 jours, d'autres en 50 jours. Celles qui sont faibles varient 10 jours, celles qui sont très lumineuses varient 50 jours. Et donc en observant la variation au cours du temps, on est capable de donner leur luminosité absolue, donc leur distance. Et ça, c'est pour les étoiles de notre galaxie. Donc on a réussi à faire ça maintenant sur quelques galaxies extérieures à la nôtre. Et ensuite, sur ces galaxies extérieures, on va choisir un critère, par exemple la plus grosse étoile rouge. On va supposer que la plus grosse étoile rouge a toujours la même luminosité. Et on va pouvoir mesurer des distances de galaxies très distantes. Hubble, quand il a mesuré ces distances en 1930, il a trouvé que la vitesse d'éloignement est proportionnelle à la distance. Ça, c'est très facile, mais il s'est trompé d'un facteur 10 dans le coefficient, c'est-à-dire d'un facteur 100 dans les distances. Non, 10 dans les distances.
Est-ce qu'à l'heure actuelle, les scientifiques imaginent une vie extraterrestre?
Tout dépend comment on regarde le problème.
Sommes-nous des extraterrestres?
Nous, par définition, nous ne sommes pas des extraterrestres. Mais a priori, certains le sont. Ceux qui travaillent la nuit.
Je parle du point de vue humain. Est-ce que les scientifiques envisagent la vie extraterrestre à l'heure actuelle?
C'est une question de probabilité, en fait. On le voit sous la question des probabilités. Si jamais, s'il y a des milliards, de milliards, de milliards de soleils dans l'univers, il y a sans doute peut-être quelque part une planète qui peut-être, a les mêmes conditions que celles qui étaient nécessaires sur Terre pour voir apparaître la vie. Ça, on ne peut pas l'exclure. A priori, on ne peut pas l'exclure.
J'ai discuté avec des lamas tibétains il y a de nombreuses années qui m'expliquaient qu'en effet, il y avait des vies sur d'autres planètes avec des formes particulières, des gens qui avaient des visages plutôt carrés, d'autres plutôt triangulaires.
J'en ai connu, moi, oui. Il y avait les frères Bogdanov. Les frères Bogdanov étaient comme ça, non?
Mais là, je pense quand même que la démarche est différente.
C'était bon ce qui fumait. Non, en fait, pour reprendre la question, en fait, la question de la vie extraterrestre, c'est une question qui était peu abordée avant. Et pas du tout, on disait, peut-être, chacun donnait son opinion. Mais fondamentalement, c'est pas... La démarche des scientifiques, ce n'est pas de donner leur opinion. Mon opinion, elle n'est pas meilleure que celle des lamas, ni plus mauvaise. Et par contre, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que la question de la vie extraterrestre, c'est un objectif majeur de la recherche. C'est-à-dire qu'on commence à essayer de comprendre comment la vie peut apparaître, et on essaye aussi de comprendre comment les planètes apparaissent. On savait qu'il y a, jusqu'à il y a 15 ans, on ne connaissait que le système solaire. Aujourd'hui, on connaît 350 planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Et maintenant, on se pose la question, on n'a pas trouvé de la taille de la Terre, mais simplement parce que les moyens qu'on a mis en œuvre ne peuvent pas voir des objets de la classe de la Terre. Il y a une mission qui vient d'être lancée la semaine dernière, qui s'appelle Kepler, qui va être capable de détecter des terres, des planètes aux mêmes caractéristiques que la Terre, en termes de taille et de masse. Et après, on se posera la question, est-ce qu'on peut diagnostiquer la présence de vie ou pas sur ces planètes? Et ça, c'est une question qui est maintenant complètement intégrée comme une des questions fondamentales. À titre d'exemple, je connais une expérience qui a été faite par un Français, donc je trouve ça très amusant. Vous savez que la Lune, quand elle est en nouvelle Lune, est éclairée par la Terre. C'est ce qu'on appelle la lumière cendrée de la Lune. Et on voit le disque lunaire, bien qu'elle ne soit pas du tout éclairée par le Soleil, on devine le disque lunaire qui est légèrement éclairé par la Terre. Alors il a pointé un télescope puissant pour analyser la lumière reflétée par la Terre, pour voir si on pouvait caractériser dans cette lumière quelque chose qui servirait de signature de la vie. On s'est dit, voilà, on va avoir un premier exemple d'une lumière qui vient d'une planète où on sait qu'il y a de la vie. Puis comme ça, on va pouvoir la garder dans nos catalogues. Et ensuite, on va essayer de trouver le même genre de caractéristiques ailleurs. Donc c'est vraiment complètement intégré dans la démarche des scientifiques. Mais ce n'est pas de la cosmologie.
Ouais, mais je crois que les Tibétains parlaient de télévision quand c'était carré. C'est ça. Je crois que c'est ça. Vous avez une question à poser d'extraterrestre, non?
Non, non. Oui, et tout à l'heure, on a fait allusion à ce qu'il pouvait y avoir avant le Big Bang. Et là, vous avez dit qu'il faudrait peut-être inventer la physique qui permettrait de savoir ou éventuellement d'essayer d'étudier ce qu'il y avait avant. Je voudrais faire allusion à une anecdote que j'ai en partie oubliée. Je crois qu'il s'agissait d'un colloque de scientifiques qui avait lieu à Rome. Et certains avaient été reçus par le pape. Et le pape avait dit, je crois notamment à ce Britannique, à Stephen Hawking, il lui avait dit, tout ce qui est jusqu'au Big Bang, là, effectivement, ça vous appartient, les scientifiques, mais ce qu'il y avait avant, ça, c'est du domaine de Dieu. Hein. Donc ça n'est pas un petit peu à ces questions, à ces interrogations. Non, plus sérieusement, on a fait allusion au lancement des fusées, on connaît, grosso modo, la vitesse avec laquelle il faut lancer les fusées pour qu'elles échappent à l'attraction terrestre. Parce que là, effectivement, elle est attirée par la masse de la Terre. L'expansion de l'univers, on connaît à peu près la vitesse de son expansion. Est-ce que, puis on parle aussi du Big Crunch, hein, ce qui voudrait dire qu'il y aurait cette possibilité de contraction à nouveau, ce qui veut dire qu'on n'est pas sûr finalement que la vitesse d'expansion est suffisante pour qu'il n'y ait pas ce Big Crunch. Alors, s'il y a ce Big Crunch, quelle est la force, la puissance qui fait que effectivement toutes la matière, toutes les galaxies sont de nouveau se replient sur elles-mêmes. Quelle est cette force? Pour ce qui est de la fusée, c'est l'attraction terrestre, et pour ce qui est du Big Crunch, qu'est-ce que ça peut être?
La gravitation elle-même. Simplement, ça veut dire qu'il y aurait un petit terme sans un petit terme de courbure, voilà, une courbure spatiale. Ça vous dit rien, et c'est vrai que c'est... Mais disons, le ballon dont je parlais, eh ben, le ballon, lui, il est... En fait, il est fermé. Ça, c'est une courbure spatiale, c'est un univers sphérique, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Souvent, on dit tout simplement un univers fermé. Et si un petit terme comme ça, non nul, eh ben, il se peut que si on attend suffisamment longtemps, il va dominer, et hop, on va repartir en arrière. Et alors on va aller vers le Big Crunch. Mais ce n'est pas du tout certain que ce petit terme est là. De toute façon, ce qu'on sait maintenant, avec toutes les manips qu'on a, toutes les observations qu'on a, c'est qu'en tout cas, ce terme, il est vraiment petit. Il est vraiment petit. Et donc, voilà, donc, c'est la gravitation.
C'est la même force. C'est la même force. Simplement, votre fusée est soumise à l'attraction de la Terre, une autre galaxie est soumise aux forces des autres galaxies. Mais ces galaxies ont des masses, donc elles s'attirent mutuellement. Qu'on ne sait pas, c'est l'intensité de cette force.
Et puis elles travaillent dans l'autre sens. Elles travaillent comme ça au lieu de...
Mais justement, si les galaxies s'éloignent, est-ce que la force ne diminue pas? Elles ont moins d'attraction les unes sur les autres en ce moment-là.
Oui. La force gravitationnelle diminue en intensité, mais comme quand mon bouchon s'en va, la force gravitationnelle terrestre diminue, mais il faut que je l'envoie suffisamment loin. Et ça ne répond pas à la question décisive, est-ce que ça va s'arrêter ou pas. Ceci dit, actuellement, toutes les estimations qu'on a pu faire de la masse de l'univers indiquent que pour ce qui est de la gravitation de masse normale comme sur Terre, cette masse-là est insuffisante pour arrêter l'expansion.
Oui, on pourrait même... Je crois qu'il y a même moyen de dire ça, d'être un tout petit peu plus précis sans être technique. C'est que la force, enfin, le terme de courbure dont j'ai parlé, il a un signe opposé aux forces qui vont favoriser l'expansion. Et donc, quand on va dans le futur, ben, il se peut que ce terme, qui pour le moment est très petit, va devenir de plus en plus proche des autres termes et puis va les dominer. Et comme il a le signe opposé, il y aura une contraction plutôt qu'une expansion. Ça, sans être technique, ça on peut comprendre. Et donc, pourquoi maintenant, le terme, il est encore toujours tout petit. Imaginons qu'il soit là, qu'il soit non nul. Il a le signe opposé, mais il est très petit. Comme il est très petit, on n'est même pas sûr qu'il soit là. Mais il se peut que dans un futur très lointain, eh ben, il a rattrapé les autres forces, et puis il va les dépasser. Et s'il les dépasse, il y a contraction parce qu'il a le signe opposé.
Oui, ça fait rêver. Oui.
Vous parlez du Big Bang comme un ballon qu'on gonfle ou comme un soufflet, c'est-à-dire de la matière qui part du même point et de la lumière qui va dans tous les sens. Est-ce que ce n'est pas exactement l'opposé du trou noir, où il n'y a pas de lumière, où ça absorbe la matière? Est-ce que quelque part, derrière le trou noir, il ne pourrait pas y avoir un Big Bang?
Oui, je mélangerai quand même pas les deux, parce que la physique des deux n'est pas tout à fait la même. Et je veux immédiatement aussi préciser que pour l'histoire du ballon, c'est apparu dans votre question, c'est que normalement, il faudrait prendre un ballon qui a une dimension de plus. Mais ça, je suis incapable de... Personne n'est capable de vous présenter un ballon tridimensionnel. Le mieux que je puisse faire, c'est un ballon à deux dimensions plongé dans la chambre qui est à trois dimensions. Donc il n'y a pas vraiment un point, hein, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. S'il y a une surface initiale. Mais je ne mélangerai pas, alors pour revenir à votre question du trou noir, c'est quand même deux choses différentes. Là, on parle de l'univers en expansion, et pour ce qui est du trou noir, c'est un objet très très massif, tellement massif et concentré qu'il ne laisse rien s'échapper, exactement.
D'autres questions ? Oui ?
Oui, quand une galaxie en expansion rencontre une autre galaxie en expansion, qu'est-ce qui se passe hein?
Il parle des. Il se raconte des histoires de galaxies. Qu'est-ce qui se passe?
Mais pourquoi se rencontrerait-elle?
Je ne sais pas.
Donc, alors attendez.
Pourquoi se rencontrerait-elle à votre
avis? Revenez à l'histoire. Reprenez votre ballon.
Il y a beaucoup de galaxies dans l'univers, là, d'après ce que j'ai compris. Donc, l'univers étant en expansion, les galaxies sont en expansion aussi.
Non, mais attendez.
Un moment ou un autre,
ils se rencontrent. Non. Là, il y a une erreur. Prenez le ballon, et moi, j'ai une galaxie, je mets une croix. Vous avez une autre galaxie, vous mettez une autre croix. Elles ne peuvent pas. Si elles se rencontrent, c'est parce qu'elles ont une vitesse par rapport au ballon. Ça, on peut imaginer. Des croix qui se baladent sur le ballon et qui viennent l'une vers l'autre. Mais si les croix suivent le ballon, vous voyez bien, je gonfle le ballon, je peux le gonfler autant que je veux, elles ne font que s'éloigner. Elles ne peuvent que s'éloigner, vous êtes d'accord?
Mais si elles sont dans le ballon.
Non, mais dans le ballon, il n'y a rien. Notre monde, c'est ce que... Nous, on est sur le ballon. Hélas, je ne peux pas le faire en trois dimensions. Je ne peux pas.
C'est-à-dire que notre planète est sur le ballon?
Voilà, on est tous sur le ballon. Je ne sais pas si ça nous fait plaisir, mais on est tous sur le ballon.
D'accord, c'était... Oui.
Pour revenir sur ce que vous disiez, les galaxies ne sont pas en expansion en tant qu'objet. Quand j'envoie mon bouchon en l'air, le bouchon lui-même n'est pas en expansion. Il vit sa vie, il reste un bouchon qui a la même forme. Par contre, les choses s'éloignent les unes des autres, en moyenne. Il se peut très bien qu'à quelques endroits, des galaxies, par exemple nous et notre voisine Andromède, avons une attraction gravitationnelle qui est plus forte qu'en moyenne, ce qui fait qu'on est effectivement en train de se rapprocher l'un de l'autre. Et on va avoir, dans un certain temps, une collision avec la galaxie d'Andromède. Et ce n'est pas très très grave pour les étoiles qui sont dans les galaxies, parce que... Si vous prenez une étoile et que vous la réduisez à la taille d'un ballon de football, ici à Carcassonne, l'étoile la plus proche, c'est un autre ballon de football qui est à peu près à Rome. Donc si vous imaginez ce grand nuage de ballons de football qui vient rencontrer un autre nuage de ballons de football, la probabilité pour qu'il se cogne est pratiquement infime. Donc il ne leur arrive pas grand-chose. Mais par contre, comme la gravitation est toujours là et les rassemble, elles finissent par se mélanger en un seul paquet de ballons.
Oui, et puis de toute façon, ce n'est pas dû à l'expansion.
C'est pas dû à l'expansion,
hein, c'est parce qu'elles ont justement une vitesse par rapport à l'expansion, une vitesse propre. C'est comme la croix qui se balade sur le ballon. Si elle ne se balade pas sur le ballon, elle ne peut que s'éloigner d'une autre croix, ne pas faire autre chose.
Attendez, je crois que j'ai une question ici.
Oui,
c'est l'expansion. Voilà. Une question ici.
Oui, j'avais une autre question d'avenir à propos du magnétisme de la Terre. Est-ce que la perte de magnétisme de la Terre permet de calculer certaines choses pour vous?
Alors ça s'éloigne, oui merci, ça s'éloigne beaucoup de mon sujet de connaissance. Le magnétisme terrestre, on comprend mal son origine. Une chose qui est assez curieuse, c'est que le pôle nord et le pôle sud par exemple, on s'inverse régulièrement. C'est-à-dire qu'une boussole, au lieu de vous indiquer le nord, au bout d'un certain temps finit par vous indiquer le sud. Enfin, c'est plutôt le pôle magnétique qui change, ça prend des... Je ne sais pas quelle est l'échelle de temps, mais c'est sûrement des milliers d'années.
J'espère.
Oui, sinon tu vas être obligé de te faire changer ta boussole. Mais des conséquences pour nous, je n'en vois pas pour l'instant, non.
Alors, Danay, je vais revenir parce que sinon on va pas entendre votre question.
Oui, il y a une très grosse perte de magnétisme qu'on analyse dans les poteries antiques. Qui était très chargé en magnétisme, et par rapport au magnétisme existant sur la Terre qui est testé maintenant, qui est très faible.
Oui, écoutez, je vous avoue, je l'apprends. Donc je vais me garder de commenter.
Vous avez un sujet de travail pour ce, oui, vous avez un sujet non, de travail pour ce soir.
Chacun son métier, les vaches seront bien gardées.
Une question.
Est-ce que l'approche scientifique représente le monde réel? Enfin, est-ce que ce qui nous paraît réel l'est aussi autant qu'on le connaît dans le schéma habituel ou pas autant qu'on le connaît dans le schéma habituel? Est-ce que ce qui nous paraît tangible est réel?
Est-ce que j'existe en fait?
Je vais vous répondre par une analogie. Quand vous passez devant la sortie et que vous allez à la gare, vous traversez le pont. Alors, est-ce que le pont est réel
voilà,
ou pas?
Voilà, c'est ça. La question, c'est ça.
Je ne sais pas, moi. Hein.
Est réel ou pas?
Tout ce que je peux vous répondre en scientifique, c'est que ce pont, on pense qu'il a été construit.
Au niveau moléculaire, on trouve de la lumière à l'intérieur de l'atome.
Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce que le scientifique peut vous dire et vous répondre, c'est que il a été construit ce pont de telle façon qu'avec l'état de nos connaissances, il ne va pas s'écrouler quand vous passez.
Oui,
qu'est-ce qui devrait vous intéresser? Est-ce qu'il est réel ou pas?
Ça, c'est physique, ok?
Est-ce que mes calculs représentent la réalité? Je ne sais pas.
Ça, c'est le monde physique. Hein.
Je ne sais pas répondre. Je suis sérieux. Hein. Est-ce que mes calculs représentent la réalité du pont?
Parce qu'à un moment, est-ce que ce n'est pas une abstraction?
Ce n'est pas la question à laquelle j'essaye de répondre. Un scientifique n'essaye pas de répondre à la réalité. Il essaye de décrire les choses et de répondre
de décrire ce qu'il voit.
À des questions.
Ça, Thomas, en fait.
Donc, quand vous voulez traverser le pont, on peut vous dire oui, allez-y. Passez devant, mais normalement, il tient.
En psychanalyse, on dit qui suis-je? Deux questions ici, ou deux affirmations.
Non, je voudrais tout simplement préciser pour la question qui a été posée relativement au magnétisme. Il s'agit de deux magnétismes différents. Premièrement, celui que l'on trouve dans des poteries. Eh bien, des poteries peuvent être magnétisées tout simplement en fonction de la richesse en oxyde de fer contenue dans les terres qui ont permis de fabriquer la poterie. S'il y a beaucoup de tétraoxyde de trifer, il y aura un très fort magnétisme. S'il n'y a que de l'oxyde ferreux ou de l'oxyde ferrique, il n'y en aura pratiquement pas du tout. Voilà donc pour la poterie, alors que le magnétisme terrestre est dû tout simplement à la constitution de ce qui se passe dans les couches profondes de, au fur et à mesure qu'on s'approche du centre de la Terre. C'est deux phénomènes différents. Les températures ne sont pas du tout du même ordre de grandeur, ainsi que les pressions.
Oui. Puis je pourrais peut-être ajouter, sans être un expert en poterie, que si ça peut vous faire plaisir, c'est qu'il y a vraiment des champs magnétiques dans l'univers dont l'origine est inconnue. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent à des mécanismes de production de ces champs magnétiques. Mais effectivement, ce n'est pas les magnétismes sur Terre. Donc effectivement, il y a ce genre de problème dont on n'a pas la solution.
Autre question ?
Oui, je voudrais savoir, j'ai entendu parler de l'espace-temps, si les lois de la physique concernant l'espace, le cosmos, peuvent s'appliquer au temps.
À la limite, je répondrais que, par définition, comme on décrit l'univers comme quelque chose de, à quatre dimensions, le temps en fait partie. Le temps en fait partie. On peut pas le dire autrement.
Quand on a détecté pour la première fois le rayonnement fossile, comment on a su que c'était le rayonnement fossile?
Ah, c'est.
Et quels renseignements on a pu en tirer?
Eh bien, le plus amusant, c'est que ceux qui l'ont découvert étaient des ingénieurs, Alain l'avait mentionné, c'était des ingénieurs de la Bell, la compagnie Bell. Et en fait, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris l'origine. Ils sont allés voir. Alors ça, c'est, il y a toute une. Je trouve qu'il y a plein de leçons à tirer. Une des leçons à tirer, qui est aussi c'est le cadre intellectuel dans lequel tout ça s'est passé. Aux États-Unis, il est assez courant que des ingénieurs qui ne comprennent pas quelque chose aillent toquer à la porte des universités. Je ne suis pas sûr que c'est vrai partout dans le monde. Et donc, ils sont allés à Princeton, ils sont allés voir un très grand monsieur qui s'appelle Peebles. Et Peebles, lui, il a immédiatement compris que ça devait être le fameux rayonnement dont Gamow avait prédit l'existence à la fin des années 40. Alors maintenant, l'enseignement, c'est sa température. Ça, c'est le premier enseignement.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier?
Alors, c'est... en fait, ce qu'il a de vraiment particulier, mais je ne sais pas si c'est tellement... Enfin, je peux le dire en... Et puis on verra si ça passe, c'est qu'il est thermalisé. Autrement dit, sa distribution est thermique. C'est-à-dire que c'est comme des photons qui ont eu largement le temps de cogner, tout le monde a cogné avec tout le monde. De telle manière qu'ils ont une distribution qu'on appelle une distribution thermique. De telle manière qu'on peut définir leur distribution avec un paramètre qui est la température. Ça, c'est pas du tout évident. Et le Big Bang, lui, le prédit. Parce que comme au début, il y avait une énorme densité d'énergie, on va dire, tout le monde cognait avec tout le monde, et alors on pouvait thermaliser le rayonnement. Et donc la première manip, je crois Alain l'avait mentionné, c'était à la fin des années 80, ils ont mesuré le spectre de ce rayonnement, et c'est ce qu'on appelle un spectre de Planck. Et c'est absolument fantastique. C'est le plus beau spectre de Planck qu'on ait dans notre univers. C'est tout à fait extraordinaire. Si des étudiants devaient mesurer un spectre de Planck et qu'ils viennent avec un truc comme ça, on les renvoie en disant vous n'avez pas fait la mesure, vous avez tracé vous-même la courbe. Tellement c'est parfait, c'est extraordinaire. C'est un spectre parfait. Et ça, c'est sa caractéristique, la première caractéristique essentielle. La deuxième, c'est que justement, il y a des petits écarts de température. C'est curieux, mais ces petits écarts de température nous disent quelque chose de très important sur les petites perturbations primordiales qui finalement vont amener à la création des galaxies. Mais ces perturbations sont de l'ordre de 1 sur 100 000. Donc il était hors de question d'aller voir en 64. Hors de question. Même en 64, même la température elle-même, on ne l'avait pas de manière très très précise. On l'avait à un dixième de degré, ou je ne sais même pas si c'était un dixième de degré. On dit toujours 3 degrés K. En fait, maintenant on est plus précis, c'est 2,72.
Je rappelle pour ceux qui vont nous écouter que vous êtes professeur...
À Montpellier.
À Montpellier.
Et, vous, et c'est mon directeur.
Très bien.
Donc je me tiens.
Monsieur.
Oui, je crois que la matière qui compose l'univers visible, c'est-à-dire les planètes, les étoiles, les galaxies constituent une petite partie de la matière de l'univers. Et le reste étant ce qu'on appelle, je crois, la matière noire. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est ?
Oui, alors là, Alain va certainement le faire après moi. Je voulais juste dire quelques petits trucs. Effectivement, c'est un exemple parfait de ce qu'Alain disait tout à l'heure, que quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas tout à fait, on ne va pas jeter tout le modèle, parce qu'il y a tout ce qui marchait. Or, le risque, et ça, tous les scientifiques le comprennent, si on jette tout, alors il faut tout reconstruire. Or, ce n'est pas facile de reconstruire tout. Donc, on se dit, on ne le voit pas, mais c'est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on connaît son effet gravitationnel, mais on ne sait pas l'identifier. Et alors, je dirais que ça va même plus loin que ce que vous dites, parce que la matière noire dont vous parlez représenterait environ un quart de ce qui constitue notre univers. Et puis, depuis 10 ans, ce qu'on pense, c'est qu'il y a encore trois quarts qui sont encore inconnus, une autre inconnue qui serait l'énergie noire. Donc, c'est un terme générique, l'énergie noire. Ça peut être une constante cosmologique, comme celle d'Einstein, par exemple. Alors, noir, c'est tout simplement, on ne le voit pas, on ne sait pas qui c'est, mais on connaît son effet gravitationnel. Donc, noir, c'est ça ce qu'on veut dire par noir, c'est qu'on ne le voit pas. Mais on sait comment il agit gravitationnellement. Aux grandes distances, on sait comment il agit. Et peut-être qu'on se trompe.
Intéressant de préciser sur la matière noire, je vous ai parlé de la nucléosynthèse primordiale, donc les réactions nucléaires qui se passent dans les premières secondes. Et comme on comprend bien ces réactions nucléaires, on est capable de dire combien il y a de matière sous forme d'atomes dans l'univers. Et donc, ce qu'on appelle, d'un terme pompeux, c'est la matière baryonique. Et cette matière baryonique, ça représente 5% de la densité totale. Et les mesures de masse qu'on arrive à faire, donc c'est ce que David expliquait, hein, on voit des objets, on voit des mouvements, donc on voit l'action gravitationnelle d'une masse, donc on peut calculer cette masse, et cette masse représente 30% de la densité de l'univers. Donc ça fait plus que 5%, ça veut donc dire qu'il y a premièrement une masse qu'on ne voit pas, et deuxièmement une masse qui n'est pas faite d'atomes, elle n'est pas faite comme tout ce qu'on connaît dans la nature est fait d'atomes. Eh bien, la matière noire, c'est autre chose. Et c'est pour ça que les physiciens des particules s'enthousiastent pour la cosmologie, au moins ont commencé à s'enthousiasmer, parce qu'il y a toutes les raisons de penser, d'espérer, je ne sais pas comment il faut le dire, que cette matière qui n'est pas des atomes, c'est une matière d'une autre espèce, donc une espèce de particule qu'on ne connaît pas encore.
Il y a une question que j'aurais voulu moi vous poser. Pourquoi l'avons-nous appelé Big Bang ?
Parce qu'il y avait un terme historique qui était l'atome primitif par Georges Lemaître. Mais c'était un francophone, donc qu'on n'est pas au monde d'anglo-saxon. Et le directeur de Cambridge était Fred Hoyle, était un opposant du Big Bang dans les années 50. Et il a fait une émission de radio, il faisait de la popularisation, mais il utilisait sa popularisation contre le modèle. Donc il avait utilisé ce mot de Big Bang. C'était pour lui une façon de le mépriser. Et oui. Il est resté.
Et c'est finalement son plus grand succès.
Très bien. Des questions encore peut-être ? Voire plus ?
Hubert Reeves dit là que nous sommes des poussières d'étoiles, là, on en a parlé là. Et étant donné aussi que l'évolution là, sur la Terre, par exemple, hein, il y a 3-5 milliards d'années, vous dites, hein, c'est les premières bactéries, et ça arrive jusqu'au cerveau humain, qui paraît-il a des possibilités infinies. Quoi, hein. Alors, est-ce qu'on ne peut pas relier, par exemple, les possibilités infinies, disons, du cerveau et l'expansion de l'univers ? Est-ce que ça aurait quelque chose à voir quand même ?
Oui,
Je ne suis pas sûr.
Là, c'est une question qui a été travaillée.
En tous les cas, c'est nos cerveaux finis qui nous ont permis de comprendre le Big Bang. C'est déjà pas mal. Mais à part ça, je ne vois pas de connexion. Le mot poussière d'étoiles, c'est amusant parce que c'est effectivement Hubert Reeves qui a écrit un livre avec ce titre-là, ou ce titre-là apparaît. Mais il y a aussi une chanson de Diane Dufresne dans les années 70 qui utilise ce mot poussière d'étoiles. Alors je me suis toujours demandé qui avait la paternité de ce vocabulaire.
Diane Dufresne.
D'autres questions sur la chanson ou sur l'univers? Oui. Oui, très bien.
Y a-t-il dans la somme de connaissances que vous avez de la place pour le Petit Prince, par exemple?
Il faut peut-être préciser la question, je crois.
Alors moi, je vais peut-être essayer de répondre, d'après ce que j'ai compris, est-ce que vous demandez quelle est la place de la poésie? Eh bien, moi, je trouve que dans notre métier, il y a une large place pour, pas la poésie, je ne vais pas écrire un article où je vais pondre quatre alexandrins, mais quand j'écris une équation qui est jolie, moi, je trouve qu'elle est poétique. Mais ça me regarde. Et si j'ai de la chance, j'aurai peut-être un collègue ou deux qui diront « Ah oui, ça c'est joli ». Donc en ce sens, je crois qu'il y a vraiment une place pour la poésie. Oui, exactement.
Tout à fait. Il y a un critère esthétique dans les approches scientifiques. C'est-à-dire quand il y a des débats entre scientifiques, il y a parfois des théories et tant que ce n'est pas encore tranché, le positionnement peut être un peu des considérations qui se rapprochent de l'esthétique. La fameuse théorie de l'inflation, par exemple, c'est une théorie qui est apparue dans les années 80, théorie totalement loufoque. On vous dit que l'univers, quand il était à 10⁻³ secondes, s'est dilaté de facteur 10 puissance 80, le tout en 10⁻³ secondes. Un truc totalement invraisemblable qui a immédiatement séduit la communauté des théoriciens. Ça tombe bien, parce qu'elle était bien vérifiée par l'intérieur.
Et vous avez l'exemple parfait de quelqu'un qui n'est pas un poète. Pour nous, c'est joli. Mais c'est vrai, Alain a tout à fait raison, il faut toujours remettre en question les choses. Non mais pourquoi, je ne dis pas ça seulement du point de vue provocateur, mais pour les théoriciens, ils aiment bien dire que cette théorie est robuste. En ce sens qu'avec un minimum d'hypothèses, on peut résoudre un maximum de problèmes. Mais effectivement, on peut très bien dire ça n'a jamais existé ou comment est-ce que vous osez dire ça et le fait d'avoir un minimum d'hypothèses avec un maximum de résultats, pour nous, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la beauté. On dit c'est beau. Quelqu'un d'autre qui va venir avec les mêmes résultats mais en prenant plusieurs hypothèses, en poussant, en tirant, en ajoutant des termes, en les enlevant, on dira non, ça on n'aime pas. Donc, en fait, il y a une notion d'esthétique, c'est exactement ce qu'il a dit. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est constamment là. Quand une théorie n'est pas tranchée, on va vraiment dire, oui, mais ça, c'est pas très... C'est pas naturel. On va le dire autrement. On va pas dire c'est pas beau. Parce que sinon, on passe pour quelqu'un qui n'est pas rigoureux. On va dire, c'est pas naturel. Mais finalement, naturel, qu'est-ce que ça veut dire, naturel? Ça veut rien dire. C'est la nature qui décide.
Oui, c'est encore moi. Simplement, je vois que vous êtes, professeur à l'université dans deux universités différentes, mais il n'est pas noté sur le petit papier quelle est la matière que vous enseignez exactement. Vous êtes professeur de quoi?
Astrophysique.
Poésie.
Et moi de cosmologie. Mais alors attendez, parce que là on va rentrer dans un grand débat. Qui n'est peut-être pas celui de la soirée, ça ne veut pas dire qu'on enseigne que ça. Mais j'ai la chance à Montpellier d'avoir effectivement, entre autres, un cours en M2, ce sont les dernières années. Je veux le préciser parce que ce sont ceux qui, plus tard, sont appelés à faire des thèses. Et là, je l'enseigne dans ma discipline, en cosmologie.
Et vous ne dites pas ça.
Et j'estime que c'est une chance.
Vous ne dites pas ça parce qu'il y a le directeur de.
Non. Non. Non, mais j'appuie lourdement.
Il y a eu à Totavel un colloque. Je ne sais pas si vous y avez assisté ou participé. Il y avait Madame Sylvie Vauclair, je crois, hein, où il a été question de l'origine de l'univers, l'origine de la vie, l'origine de l'homme, par des scientifiques. Mais il y a eu aussi, je crois, un intervenant ecclésiastique qui a abordé les mêmes problèmes, mais d'après les textes sacrés. Hmm. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il a pu dire, parce que je n'y étais pas, et est-ce que vous avez une idée de comment ils peuvent aborder ces trois origines-là?
Mais pourquoi vous ne demandez pas à la dame qui est là?
En fait, en deux mots, ce serait « et Dieu dans tout ça ». Et c'est la question qu'on m'a dit, si tu te manques une question, tu dis « et Dieu dans tout ça ».
Non, mais ça reprend un petit peu, pour revenir un peu sur l'histoire de Lemaître, parce qu'elle est intéressante de ce point de vue. Lemaître est ecclésiastique et il construit un modèle qui finalement convient bien à la religion, puisqu'il y a un début à la création. Alors que les philosophes plus classiques et athées avaient tendance à vouloir un univers éternel sans créateur. Et à ce point que le pape de l'époque prend la parole publiquement pour dire « cette théorie du Big Bang, c'est le fiat lux ». Et que fait le maître? Eh bien, il vient à Rome, il demande une entrevue au pape et il n'explique pas du tout. La réalité du monde, ce qui se passe dans le monde, c'est une vérité qui est bien en dessous de la vérité révélée. Et le maître expliquera dans des textes que on ne mélange pas la réalité divine à la réalité du monde qui est appréhendable. Et donc il sépare totalement le discours, le maître qui est prêtre, est le premier ecclésiastique qui va ensuite donner le dogme de l'Église, hein, puisqu'il sera le président de l'Académie des sciences pontificales. Et ce schéma-là est repris. L'Église catholique est maintenant sur la ligne que la réalité scientifique et la réalité du monde est une réalité et qu'elle n'est pas à mettre en parallèle avec les textes sacrés. Alors, ceci dit, tout le monde n'est pas sur cette ligne-là, même dans l'Église. Hein. Et un aspect aussi amusant, c'est qu'on a vu une opposition au modèle du Big Bang qui s'est développée sur la même logique. C'est-à-dire des scientifiques ont refusé l'idée de Big Bang parce que ça rappelait trop le récit de la Genèse. Donc il y a une opposition à dire non, c'est trop proche. En plus, c'est un religieux qui l'a établi. Donc c'est une opposition sur le principe qui relève pas de l'esthétisme, mais des a priori individuels.
Donc, puisqu'on parle de religion, dans les textes anciens, les Védas, il y a des théories qui expliquent une création cyclique de l'univers, donc expansion, rétraction, etc., avec des échelles de temps qui sont, enfin, j'ai plus trop ça en tête, mais qui sont assez proches de... C'est pas comme la Genèse, 6 000 ans, des choses comme ça, c'est des échelles de temps immenses, et je sais pas si vous avez déjà pu vous intéresser à ces choses-là, ou si vous en pensez quelque chose.
Écoutez... Non, je crois qu'on sépare les deux. Vraiment, on essaye de décrire du mieux qu'on peut, le plus honnêtement possible, l'univers avec les lois qu'on croit avoir découvertes. Maintenant, si ça rappelle des images de religion, pourquoi pas, je veux dire. Mais ça ne fait pas vraiment... On ne peut pas dire que c'est intégré dans notre travail. Je crois que ce serait pas juste de dire ça.
Je suis tout à fait conscient de ça. Il faut en faire abstraction à un certain moment. Mais ça... Le fait de voir qu'il y a des textes de plusieurs milliers d'années se rapprochent de théories absolument très scientifiques, ça peut pas laisser totalement indifférent quand même.
Ça peut ajouter au mystère de la vie, au mystère de l'univers, oui, ça je suis d'accord.
Non, mais même juger si le texte se rapproche ou pas du débat, du modèle scientifique, c'est déjà une appréciation très personnelle et qui demande déjà une lecture très individuelle. Je vais vous faire la lecture des mêmes textes et vous démontrer que c'est complètement le contraire. Il n'y a pas le texte ancien en particulier. Déjà, même des textes scientifiques du Moyen-Âge ne sont pas très rigoureux dans leur description. Des textes religieux plus anciens, c'est encore pire. Vous ne pouvez pas les comparer à un modèle scientifique. Si vous le faites, vous le faites à votre sauce. Mais vous n'avez pas de repère pour faire une telle comparaison. C'est pas parce qu'il y a des analogies qu'on peut deviner. Vous savez, comme les textes de... Comment il s'appelle ce, Nostradamus ou... c'est écrit de telle façon que vous pouvez tout retrouver une fois que vous avez la réponse.
Ces problèmes de religion et de texte sacré me rappellent le grand débat actuellement entre les théories de Darwin et le créationnisme. Je crois utile de préciser que, pour ce qui concerne les textes sacrés, peu importe de quelle religion il s'agit, on va se situer dans une fourchette comprise entre 4000 et 10 000 ans. La création ou l'apparition des premiers hommes, selon les paléontologues, ce serait entre 4 et 8 millions d'années. Donc déjà entre les deux, il y a un coefficient de 1 à 1000. Et la création de l'univers, ce sera à milliards d'années. C'est-à-dire encore un coefficient de 1 à 1000 par rapport à l'homme et par rapport au texte sacré. Donc, les trois domaines peuvent peut-être se ressembler, mais ils n'ont absolument rien de commun.
Il fallait peut-être le préciser, oui.
Tant que j'ai le micro, tout à l'heure, on a parlé de poésie. Eh bien, s'il y en a parmi vous qui font de la physique des particules, eh bien, on fait appel aux propriétés des particules élémentaires à partir des quarks et on fait appel au charme ou à la couleur. Et ça, ça a à voir avec de la poésie ou au moins avec de l'art.
Vous pourriez nous expliquer la différence entre astrophysique et cosmologie, s'il vous plaît ?
Je crois que c'est une différence d'échelle. La cosmologie, c'est vraiment l'univers jusque là où on peut aller. Tout l'univers, on va dire. Alors que l'astrophysique, c'est plus proche. C'est aussi les planètes, la galaxie. C'est une question de... Mais je dois dire que, et c'est un très bon signe en fait pour nos deux disciplines, c'est que la frontière n'est plus étanche. En fait, maintenant, il y a vraiment les modèles cosmologiques sont testés jusqu'aux plus petites échelles où justement les astrophysiciens interviennent. Donc maintenant il y a une osmose entre ces domaines et ça je trouve que c'est très très bien. Ce ne sont pas des gens qui s'ignorent et qui travaillent chacun dans leur coin.
Ça c'est intéressant parce que c'est une vision de théoricien de physique des particules. Pour moi la cosmologie c'est un des domaines de l'astrophysique. L'astrophysique se définit comme l'étude des objets dans le ciel. Donc ça commence avec l'atmosphère terrestre à haute altitude, le Soleil, les planètes, le système solaire, les autres étoiles, les autres galaxies, et puis l'histoire de l'univers dans son ensemble. Et d'ailleurs, si vous prenez les textes, je suis tombé par hasard sur un texte de Maupertuis de 1775, il décrit l'état du système solaire, des connaissances actuelles, donc on a compris que finalement c'était le Soleil qui est au centre du système solaire, les orbites des planètes, la sphère des fixes, ça s'appelle essai de cosmologie. Donc la cosmologie, ce qui est nouveau, ce qui est fondamentalement nouveau, c'est qu'il s'est établi une connexion très très forte entre le besoin d'une nouvelle physique, d'une physique qui décrit les très hautes énergies, donc le tout début, et cette physique des très hautes énergies, c'est la même physique que la physique des physiciens des particules. Et c'est ce lien-là qui est extrêmement nouveau. Et aussi à travers la matière noire. Mais c'est cette liaison qui fait que maintenant, il y a un ensemble, la cosmologie a débordé le cadre de l'astrophysique parce que les compétences dont on a besoin sont éclatées dans différents domaines de la physique.
Le plus jeune d'entre nous est là, il a envie de vous poser une question.
Oui, je me demandais, en fait, Vous nous avez expliqué que les galaxies s'éloignaient, s'éloignaient suivant une trajectoire bien définie. Je me trompe peut-être, hein, ça. Et donc je me demandais s'il y avait, en l'état des connaissances actuelles, il y avait des forces qui pouvaient faire dévier les galaxies de ces trajectoires. Est-ce qu'on peut imaginer des forces qui font dévier les galaxies ?
En fait, la force numéro un qui régit tout ça, c'est toujours la gravitation. Donc alors l'expansion, c'est pas un mouvement par rapport à quelque chose qui serait immobile. Donc je sais pas s'il faut vraiment le voir comme un mouvement, mais enfin on peut le décrire comme un mouvement. Mais après, ce mouvement d'ensemble, je reprends l'image du ballon qu'on gonfle. Hein, donc vous avez un ballon qu'on gonfle, les points qui sont, si vous mettez des points avec un feutre sur votre ballon et que vous soufflez, ces points s'éloignent les uns des autres. Ils n'ont pas vraiment de trajectoire dans l'espace du ballon. Le mouvement est ailleurs. Maintenant, si vous mettez une fourmi sur votre ballon, elle a le droit de bouger sur ce ballon. Vous gonflez le ballon et puis elle se déplace sur le ballon. Et donc, s'il y a deux fourmis, ces deux fourmis peuvent avoir des trajectoires l'une par rapport à l'autre, venir l'une vers l'autre, s'éloigner l'une de l'autre, en plus du mouvement dû à l'expansion.
Je voudrais revenir sur le terme de cosmologie. Est-ce qu'on peut dire que du temps des Égyptiens, des Babyloniens, etc., on pouvait parler aussi de cosmologie, sachant qu'ils ne se fondaient pas du tout sur les mêmes sciences que vous faites aujourd'hui ?
Je dirais que non, parce que ce n'est pas le même objet. C'est peut-être peut-être que l'ambition était la même. Mais les méthodes, la manière de se représenter l'univers n'était pas du tout la même. Et je crois vraiment qu'il faut quelque part être un peu rigoureux sur les... dire voilà, nous on fait ça et vous faites ça.
Alors je vais répondre complètement le contraire. Je fais souvent cette petite plaisanterie de dire que le métier de cosmologiste est sans doute l'un des plus vieux métiers du monde. Parce que je pense que quand on se représente, dès qu'on a une conscience humaine, on a une représentation de l'espace, on a une représentation du temps, et on va tout de suite essayer d'aller au-delà de cette représentation. Et donc dès qu'on commence cette démarche d'essayer de se représenter ce qu'il y a au-delà de ce qu'on appréhende directement, de ce qu'on connaît de façon immédiate, à la fois dans le temps et dans l'espace, on fait de la cosmologie. Et de fait, dans toutes les civilisations, il y a toujours une représentation du monde à grande échelle, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc il y a toujours une cosmologie. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? Donc on va finir par être d'accord quand même. C'est qu'on s'est débarrassé de la démarche, enfin on a quitté la démarche religieuse et philosophique pour traiter ça comme un problème de physique. C'est-à-dire on traite l'univers comme un objet quelconque. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau. Et il y a un paradoxe apparent, c'est de se dire que c'est l'objet le plus ancien de réflexion. Et finalement, la démarche scientifique va arriver très très tard, 1965. Elle était déjà un peu là un peu avant, mais avec très peu d'efforts. L'effort devient très important à partir de 1965. Et le paradoxe est qu'apparent. C'est-à-dire que ça a tellement de connotations justement philosophiques et religieuses de parler de l'univers dans son ensemble qu'il y a une réticence des scientifiques à aborder cette question. Il y a des philosophes qui disent on ne parlera pas du tout au sens de l'ensemble. Et effectivement, c'est parce qu'il y a un sens, ça nous touche l'histoire de l'univers, que le discours scientifique a eu du mal à s'approprier ce domaine.
Allons-nous rester sur ce thème ?
J'ai encore une question. Que pensez-vous d'Einstein, avec son esprit de curiosité, les conséquences, le nucléaire, Hiroshima,
etc.
La première partie de la question est plus simple à répondre. Je pense qu'Einstein était un très grand physicien. La seconde partie est beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas nécessairement Einstein, c'est de manière générale, que fait-on des connaissances scientifiques ? Écoutez, on peut en faire le mal, on peut faire le bien.
Alors, une motivation. Donc la motivation.
Même plus que ça, tout dépend de l'état de la société qui emploie ces connaissances scientifiques et de nous-mêmes, bien sûr.
Donc est-ce que avec une vision, en admettant qu'un scientifique ait une conscience visuelle, visionnaire du monde tel qu'il le voit, la société dans laquelle il vit, est-ce qu'il peut imaginer que sa découverte puisse avoir des mauvaises conséquences et donc, à partir de ce moment-là, ne pas la montrer au monde, en fait.
Écoutez, honnêtement, je vous dirais, honnêtement, connaissant un peu le monde scientifique, puisque j'en fais partie, je crois qu'il y a personne qui ne va pas faire connaître une découverte aussi révolutionnaire que celle de son papier 1905, tout simplement parce qu'il a peur des retombées 40 ans plus tard. Mais la vraie question est effectivement, et puis après, une fois qu'on l'a fait, oui, je comprends.
L'esprit de
curiosité. Oui, je comprends bien. Mais je crois sincèrement qu'il faut être honnête. Les scientifiques sont des êtres humains en compétition. Chacun veut bien montrer qu'il est plus fort que l'autre. Pas de manière caricaturale, hein, mais on aime bien avoir quelque chose qui est reconnu. Et c'est évident que si quelqu'un découvre E égale MC carré, qui n'est pas banal comme découverte, je connais très peu de gens qui vont pas le faire savoir.
Oui, moi j'ai découvert que le temps passe vite et je le dis pas.
Et c'est peut-être un sujet d'un prochain café de bar des sciences, sciences et éthique.
Qui tire bientôt à sa fin, ça va pratiquement être les dernières questions.
Oui, pour réconcilier la cosmologie avec l'astrophysique, je dirais que les cosmonautes ne vont pas plus loin que les astronautes. Ils ont le même...
Ah bon?
Les astronautes, ils vont à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Ils vont jusqu'à la Lune, 300 000 kilomètres. Nous, on va à 13 milliards de...
Eh oui.
Mais c'est vrai que ces chiffres, tout au long de ce débat, m'ont fait un petit peu rêver. C'est vrai qu'on est petit quand on voit un petit peu tout ce qui s'est passé.
On est beaucoup plus petit que ça. Encore beaucoup plus petit.
Et justement, parce qu'on s'est dit... Oui, on est petit, on n'a parfois pas toujours les questions que vous auriez souhaité que l'on puisse vous poser. Quelles questions auriez-vous voulu entendre aujourd'hui si ça n'a pas été fait? Et ça sera peut-être un peu la conclusion de cette soirée. Ou alors, on a fait le tour de la question.
Non, d'abord, je crois qu'on est resté sur des questions autour du modèle qui étaient bien des bonnes questions. Donc, c'était intéressant d'y répondre. Après, il y a peut-être ce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, hein, c'est à la fois tout ce qu'on a essayé de comprendre sur vraiment le tout début, ce qu'on a juste évoqué sous forme de mots, c'est d'inflation, ces théories d'inflation. En fait, on est resté un petit peu dans le cadre de ce qu'on a appelé le modèle standard du Big Bang. Hein, on a très très peu évoqué ce qui est au-delà. Et dites-vous que pratiquement depuis 1965, toute la recherche en cosmologie, elle s'est faite au-delà du modèle du Big Bang. Donc finalement, on n'est pas vraiment rentré dans le cœur de notre activité de tous les jours. Ça, c'est juste pour vous donner un peu de regret.
Monsieur Bollard.
Oui, je répondrai quelque chose d'analogue. En fait, je pense que, en gros, les questions ont été posées. Toutes les questions ont été posées. Les questions qui resteront à poser seraient plutôt des questions personnelles. Comment est-ce que vous vivez votre métier? Comment êtes-vous arrivé à exercer ce métier? Ça, c'est les questions qui n'ont pas été posées. Mais je ne sais pas si c'est le cadre pour le faire, d'ailleurs.
Effectivement, c'est une question qu'on aurait pu vous poser. Vous avez été le co-organisateur de cette soirée. Est-ce que vous pensez qu'on a un peu fait le tour, Alain Palvar?
La réponse, comme j'ai la même culture que mes collègues, j'ai la même réponse. Je crois que...
Il marche, oui.
Je pense qu'effectivement, il y a toute une partie de la question de la cosmologie qui se situe alors... vraiment dans les tout débuts de l'univers, à l'intérieur même de la première seconde et même bien avant de la première seconde, qui connecte d'ailleurs, ça a été évoqué par Alain tout à l'heure, la physique des particules élémentaires telle qu'on la pratique à une échelle qui n'est encore pas extrêmement énergétique par rapport au Big Bang, mais dans les accélérateurs de particules comme le LHC qui va redémarrer au mois de septembre prochain. Donc là, il y a une connexion complète de la physique. qu'on n'a pas pu complètement aborder, c'est-à-dire vraiment une connexion entre ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit qu'on est capable à un certain niveau de reproduire sur Terre et vraiment ce qui se passe aux plus grandes échelles de l'univers. Il y a une connexion complète, on a une description maintenant relativement homogène de la physique avec des lois qui fonctionnent sur Terre comme au moment du Big Bang. On a l'idée quand même que la physique est unique et les lois de la physique n'ont pas évolué depuis 13 et quelques milliards d'années, ce qui est quand même quelque chose qui soit est rassurant, soit n'est pas sûr, mais enfin quelque chose auquel on croit quand même relativement fort, puisque en s'appuyant sur ce que l'on fait dans les accélérateurs, par exemple au LHC, on est capable de se forger une image du Big Bang. Il reste des problèmes comme celui de cette expansion extrêmement extraordinaire qu'on appelle l'inflation, qui n'a été qu'évoquée, qui est une question intéressante, et qui pourrait être peut-être trouver aussi sa solution justement dans des modèles de physique des particules tels qu'on les pratique en extrapolant au-delà de ce qu'on fait de la physique des particules dans nos accélérateurs. Donc il y a cette immense connexion. Je crois que la cosmologie a fait des progrès extraordinaires dans les 20-30 dernières années, qu'elle a réussi à construire un modèle standard pratiquement au niveau de performance de celui que l'on a pour la physique des particules qui a été construite entièrement en examinant des phénomènes à l'échelle terrestre. Et je trouve que c'est tout à fait extraordinaire et qu'on va vers une fusion de plus en plus importante. Cette partie de la fusion entre l'infiniment grand et l'infiniment petit n'a pas été abordée, mais je pense qu'effectivement on avait déjà beaucoup de sujets à débattre sur toute la phase un peu antérieure qui est quand même celle qui touche le plus les gens, hein, c'est-à-dire les questions de l'origine, de l'évolution, toutes ces questions-là sont plus macroscopiques, je dirais, mais aussi sont plus fondamentales dans nos tripes que celles de savoir si les particules élémentaires contribuent beaucoup et de quelle manière à l'origine de l'univers. Ça, c'est quand même une question plus technique et qui nécessite un autre débat, pratiquement.
Eh bien, écoutez, le débat sera ouvert pour un autre bar des sciences, peut-être, pourquoi pas. Monsieur Jean-Claude Pérez, on sait que vous êtes député de l'Aude, mais aussi président du pays carcassonnais. Je pense que le mot de la fin vous revient en remerciant peut-être aussi l'équipe qui a organisé cette soirée.
Merci pour faire vite. D'abord, mille merci à toute l'équipe qui l'a organisée. Cette soirée est à l'image, je crois, du pays carcassonnais, c'est-à-dire absolument pas élitiste, puisque le plus grand nombre, et au travers de toute la publicité qu'on a pu faire, était le bienvenu au bistrot d'Augustin ce jour. Et celles et ceux qui sont venus, ils sont venus passionnés, écouter, entendre, questionner, interpeller des gens passionnants. À partir de là, c'est pas une fin en soi. Chacun repart avec toutes ces questions qu'il faut fouiller, celles où on se dit, tiens, j'ai peut-être pas eu la réponse que je voulais, à charge pour moi d'aller fouiller à l'endroit voulu pour essayer d'avoir cette réponse. Cette réponse, elle appartient à chaque personne ici présente. Et donc, Farid, au travers de Contact FM, au travers de ce qu'on peut réécouter sur le site du Pays Carcassonnais, on prend des thèmes, s'intéresser à la science, s'intéresser à la vie, se poser des questions qu'on ne se pose pas tous les jours dans sa vie quotidienne, et le faire avec des gens triés sur le volet. C'est pas une flatterie, mais en tout cas qui nous communique un maximum pour nous interpeller. Je n'enseigne pas, j'éveille, bien c'est ce soir en tout cas, bien modestement, moi ce que j'ai retenu à ce bar des sciences.
Merci beaucoup, merci à vous mesdames, messieurs. Un prochain bar des sciences certainement, et puis vous avez sur les tables des brochures qui vous permettront d'avoir un petit peu plus d'informations peut-être sur ce qui a été écrit autour des Big Bang. Et puis il y a aussi le cinéma ici, c'est ça, Ciné-Science, qui vous sera proposé à Carcassonne le 13 mars, c'est vendredi et samedi. Voilà, merci de votre attention et encore merci Monsieur et la librairie Bréteau qui nous ont aidés justement à pouvoir travailler sur ce sujet. Merci beaucoup, messieurs, dames. Au revoir et merci de votre compétence.